À Alençon, le mouvement associatif de Normandie s'est mobilisé samedi 11 octobre dernier, quelques jours avant la présentation officielle du projet de loi de finances 2026. À travers cette manifestation, les acteurs associatifs voulaient déjà alerter sur les menaces qui planaient sur les financements publics, conscients que de nouvelles coupes budgétaires risquaient d'affaiblir durablement la vie associative. Et dans la continuité de cette action et du plaidoyer régional pour la vie associative, nous recevons aujourd'hui le représentant du mouvement associatif local, Monsieur Lemonnier, pour évoquer la situation actuelle, les inquiétudes du secteur et les perspectives pour les mois à venir. Eh bien, bonjour Monsieur Lemonnier, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est que le mouvement associatif de Normandie et quel est son rôle dans la région ?
Oui, donc, bonjour et merci de me recevoir. Donc le mouvement associatif de Normandie, c'est la déclinaison du mouvement associatif national qui regroupe, le mouvement associatif c'est une coordination d'associations qui sont elles-mêmes des coordinations. Donc dans les plus importantes, je vais citer l'URIOPS hein, qui concerne tout le médico-social. Je vais citer le CROSS qui est bien sûr le mouvement sportif. Ensuite le CRAJEB qui coordonne les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Par exemple aussi l'URAF qui rassemble toutes les associations familiales et on sait le nombre d'associations familiales qui existent, qui sont nombreuses. Ensuite nous avons le tourisme social, nous avons les coordinations environnement, les coordinations droits de l'homme, toutes ces associations, c'est déjà des coordinations qui sont présentes dans ce mouvement associatif. Et ensuite, on a des associations qui sont elles-mêmes des coordinations, par exemple la Ligue de l'enseignement, Famille Rurale, par exemple, qui sont des associations, mais aussi des fédérations. Donc, toutes ces associations se ressemblent dans le mouvement associatif qui, fédère plus de la moitié de toutes les associations. Alors, le mouvement a été lancé, effectivement, par le mouvement associatif, mais aussi par d'autres partenaires, à savoir le collectif, par exemple, des associations citoyennes, qui fédère aussi pas mal d'associations, est un partenaire de ce mouvement du 11 octobre, qui a, démarré dès le printemps de 2025, parce qu'on sentait bien qu'il se passait quelque chose au niveau de la vie associative en général. Donc voilà concernant la présentation. Alors j'ai sûrement oublié quelques associations, quelques fédérations là. Donc le mouvement associatif normand se veut être un interlocuteur de la puissance publique, un interlocuteur de l'État, notamment à travers les services de l'État qu'on appelle la DRAGES par exemple au niveau régional et SDGES dans les départements. Se voudrait aussi un interlocuteur du conseil régional, mais là le conseil régional peine à nous, à nous reconnaître un peu. C'est-à-dire le conseil régional reconnaît un certain nombre de nos secteurs d'activité, le sport par exemple, et a peut-être un peu de mal à reconnaître d'autres secteurs d'activité. Ensuite, on peut être un interlocuteur aussi des conseils départementaux, des EPCI, des communes, bien sûr. Donc, un interlocuteur potentiel de la puissance publique. Voilà. Pour une présentation générale du mouvement associatif.
Alors, vous avez récemment publié un rapport de plaidoyer régional pour la vie associative. Quels en sont les grands objectifs ?
Oui, alors ce plaidoyer a fait l'objet de plus d'une année de travail avec, à partir de 2023 pour une réunion en avril 2024 qui a rassemblé 200 participants sur le plan régional avec ce plaidoyer concernant la vie associative. Alors quand on dit plaidoyer, ça veut dire ce que ça veut dire un peu, c'est-à-dire que la promotion de la vie associative, des associations qui sont porteuses de cette vie associative et les enjeux, c'était par exemple le problème du financement, le problème des bénévoles, le problème des métiers, le problème des démarches administratives, tout ça, c'était des axes qui ont été développés sur une année de travail, parce que c'est la journée d'avril 2024, ça a été le débouché, le fait de finaliser une année de travail entre les associations sur le plan régional.
Alors justement, ce plaidoyer mentionne la richesse du tissu associatif normand, avec des dizaines de milliers d'associations et de bénévoles actifs. Quelle est, selon vous, la principale force du monde associatif normand aujourd'hui ?
Sa principale force, c'est d'être présent sur le terrain. C'est d'être présent auprès de la population, puisque qui dit association dit forcément des services qui sont rendus à la population. Alors que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes en situation de handicap, enfin tout type de public. Donc sa principale force, c'est d'être présent sur les territoires. Et je pense qu'il n'y a pas une commune dans cette région ou dans ce pays d'ailleurs qui n'a pas d'association. Elle est sportive, elle est culturelle, elle elle est caritative, elle est, enfin, c'est effectivement dans tous les domaines que ces associations rendent service à la population. Voilà.
Alors, le rapport souligne plusieurs défis, renouvellement des bénévoles, la structuration des emplois, la difficulté de maintenir des projets dans un contexte économique tendu. Les constats sont-ils les mêmes aux quatre coins du territoire ou est-ce que c'est particulièrement le cas en Normandie ici ?
Non, la Normandie n'est pas défavorisée ou n'est pas privilégiée non plus. Donc, il faut s'appuyer sur les rapports du CESE, le Comité économique, social, environnemental, national, qui effectivement, en 2024, a déjà fait un rapport constatant la faiblesse ou le péril éventuellement de la vie associative. On a d'autres rapports du Haut Conseil à la vie associative, qui dépend lui-même du ministère, qui reconnaît cette difficulté, cette situation actuellement difficile de la vie associative, et même la Cour des comptes le reconnaît. Donc on a, d'un point de vue institution, on a la reconnaissance des difficultés de la vie associative en général, et puis on a nos associations qui effectivement sont en difficulté, certaines abandonnent, certaines meurent en silence d'ailleurs, et certaines diminuent leurs activités parce qu'il y a un manque de financement, mais comme vous l'avez dit, hein, ce n'est pas que le problème du financement, c'est aussi... Alors le problème des bénévoles, c'est vrai qu'avec la Covid, il y a quand même pas mal de personnes, parce que c'est vrai que la vie associative est quand même bien portée par pas mal de retraités. Donc il y a quand même, pendant cette Covid, a fait que un certain nombre de personnes qui pendant des années ont donné énormément de temps à la vie associative, ont retrouvé la vie familiale et se sont dit, bon ben voilà, j'ai suffisamment donné à la vie associative, maintenant je m'occupe de mes petits-enfants et ainsi de suite. Donc les bénévoles ont un retrait des bénévoles important, et le fait de retrouver des bénévoles, c'est pas facile. Quelqu'un qui est en situation de travail, par exemple, a d'énormes difficultés de libérer du temps pour s'occuper d'une association. Et on a, alors ça fait depuis plusieurs années, on parle du statut des bénévoles qui n'avance pas beaucoup. Et donc cette difficulté, effectivement, des bénévoles, alors des financements, puis alors les problèmes des métiers aussi, hein, parce qu'on est actuellement soumis à ce problème d'emploi, à savoir qu'on ne trouve pas forcément les qualifications, les compétences, pour occuper des emplois dans cette vie associative qui requiert quand même de la qualification, qui requiert des compétences. Et c'est une difficulté parce que les salaires ne sont pas engageants, et donc on a quelquefois du mal à trouver les emplois qu'il nous faut au niveau de la vie associative, oui.
Alors parmi les priorités évoquées, il est question de mieux observer et accompagner la vie associative dans les territoires. Est-ce que c'est déjà en place en Normandie ?
Oui, alors il y a un dispositif qui s'appelle Guidasso. Alors auparavant, on avait le PAVA, les points d'appui à la vie associative, on avait les CRIB, c'était concernant les bénévoles, et depuis maintenant 2 ans, alors ça avait été mis en place sur le plan national il y a 3-4 ans, mais pas dans toutes les régions, et depuis en Normandie, depuis maintenant 2023, donc on avance, il y a effectivement le dispositif Guidasso. Les dispositifs Guidasso qui a été mis en place et qui est complètement, enfin quasiment partout installé dans chaque département, avec Guidasso, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, donc c'est bien l'accompagnement des associations ou des personnes qui souhaiteraient constituer une association, par exemple, parce qu'on part toujours de l'individu qui a envie de faire, et d'accompagner ces associations sur tous les plans. Alors avec des associations qui sont généralistes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de conseiller, d'accompagner une association, de l'envoyer vers une association qui va être spécialiste, par exemple au niveau du sport, au niveau de l'emploi. Et on a ce dispositif qui est en place dans chaque département, avec une co-animation dans chaque département entre les SDGS et puis ici ou là une association. Par exemple dans l'Orne, c'est avec une association qui s'appelle Famille Rurale, où il y a ce qu'on appelle une co-animation entre l'État et une association. Et puis ensuite, on a les associations, comme je vous disais, généralistes, spécialistes, et ainsi de suite, ou simplement d'orientation. Dans le Calvados, par exemple, l'animation sur le plan départemental se fait avec un consortium de 5 associations qui travaillent avec la SDGS. Donc dans chaque département, la co-animation, toujours avec des SDGS, hein, et donc des associations, ici c'est une association, ici c'est 5, est mise en place, et c'est quelque chose qui fonctionne actuellement, puisqu'il y a de la formation qui est faite auprès des agents qui sont dans ces structures-là. Donc on peut dire que cet accompagnement des associations s'est mis en place ces 2 dernières années, et de façon plutôt positive et plutôt efficace. Voilà.
Alors parlons maintenant de politique publique et de financement. Le plaidoyer appelle à une co-construction des politiques publiques entre les pouvoirs publics et les associations. Oui. Est-ce que vous sentez une réelle écoute des institutions régionales et locales ?
Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec la DRAGES qui représente l'État, il y avait effectivement de la co-construction, c'est clair, hein, puisque je reprends l'exemple de Guy Dassault. Guy Dassault, c'était une co-construction entre la DRAGES, c'est-à-dire représentant l'État, et le mouvement associatif. Et donc, ça a été réellement une co-construction entre les deux. Et donc, au niveau de l'État, je le répète, je veux dire qu'on travaille avec la DRAGES et dans de bonnes conditions. Ensuite, alors, par rapport aux collectivités locales, c'est vrai qu'ici ou là, on peut avoir sur une métropole, des bonnes, quelquefois on réussit des co-constructions. C'est vrai que je le répète, avec le conseil régional c'est difficile, sauf en matière de sport, effectivement, où le sport est plutôt bien reconnu, mais on a actuellement, on est plutôt dans la non-reconnaissance de la vie associative sur d'autres secteurs, et du coup la co-construction ne se fait pas. Donc c'est ce qu'on réclame sur le plan régional. Alors d'une région à l'autre ça varie complètement, hein. Si on reprend une région comme les Hauts-de-France, qui donne des moyens considérables, enfin considérables entre guillemets par rapport à la Normandie, les Hauts-de-France, c'est des dizaines de salariés qui sont financés par le conseil régional Hauts-de-France du mouvement associatif. En Normandie, c'est zéro. Donc, vous voyez bien, d'une région à l'autre, la politique publique des conseils régionaux est radicalement différente d'une région à l'autre. Alors, d'un département à l'autre aussi, bien sûr. Donc, nous, ce qu'on réclame, c'est une politique publique, le fait de pouvoir co-construire des politiques publiques avec les collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements, les communes, et ainsi de suite. Et ça, c'est un vœu qu'on porte en Normandie. Voilà.
Alors, avec les coupes budgétaires prévues dans le projet de loi de finances 2026, quels impacts concrets anticipez-vous pour les associations de la région ?
Eh bien, tout simplement des suppressions d'activités. Donc, ça veut dire que la population va en pâtir quand on supprime, par exemple, je reprends tout, enfin, les colos apprenantes, par exemple. Alors, c'est vrai que sur le terme colos apprenantes, on en a débattu, on n'était pas d'accord sur cette appellation, mais peu importe. Ça a permis, par un financement de l'État, à des enfants dans des communes où effectivement la commune avait été maître d'ouvrage en quelque sorte, puisque c'est elle qui permettait à des enfants de partir sur un séjour avec un financement d'État important. Donc par exemple, si on supprime, puisque c'est dans l'air du temps, de supprimer ces financements des colos apprenants, ça veut dire que des enfants qui pouvaient partir auparavant ne vont plus pouvoir le faire. Donc ça c'est un exemple. Ensuite, alors ce sont des activités en moins, on a par exemple des associations dans l'insertion qui suppriment des ateliers parce que il n'y a plus les financements, et puis globalement, ça va jouer sur les emplois aussi. Je note, enfin, il faut quand même noter que la vie associative, c'est 11% des emplois privés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un secteur d'activité dans ce pays où il y a autant de salariés. Alors effectivement, ça va du caritatif au sportif, en passant par un tas de secteurs différents. Donc c'est pas quelque chose d'uniforme. Mais n'empêche que ce sont des emplois, et les 11% d'emplois sur le plan national, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, baisse de subvention, et quand on dit subvention, attention au terme, hein, les associations ne sont plus financées pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles font. C'est-à-dire que les subventions répondent à des marchés publics, répondent à des délégations de services publics, ou sont sur la base d'une convention, à savoir que c'est l'association qui propose une activité, c'est la collectivité qui finance, et ça s'appelle une subvention. Mais la subvention pour qui a existé, hein, il y a 40 ou 50 ans, ou 60 ans, il y avait des associations qui étaient financées parce qu'elles représentaient quelque chose, et elles n'étaient pas financées parce qu'elles faisaient, mais parce qu'elles étaient. Et ça, c'est terminé. Maintenant, il y a quasiment plus d'associations qui bénéficient d'une subvention, d'une aide financière pour ce qu'elles sont. C'est pour ce qu'elles font, et du coup, elles ont des comptes à rendre. C'est-à-dire une association qui est financée, elle rend des comptes sur ce qu'elle a fait de l'argent public qu'elle a utilisé. La diminution de ces financements, ça va forcément impliquer des suppressions d'emplois, c'est très clair.
Alors oui, justement, on oublie souvent que même subventionnées, au final, les associations font économiser d'importantes sommes d'argent public. Les bénévoles assurent des missions auxquelles les collectivités ne pourraient pas répondre, même avec des budgets bien supérieurs. Comment faire comprendre cette réalité aux décideurs politiques ?
Eh bien, en les interpellant. c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, moi, j'ai noté sur Alençon, par exemple, le 11 octobre, il y avait la présence de la députée de la première circonscription, il y avait la présence du député, du maire, président de la CUA, qui était présent aussi. Donc l'interpellation, effectivement, je crois qu'on a alerté, du moins on a contacté absolument tous les parlementaires, que ce soit sénateurs ou députés, concernant cette affaire, et quelquefois on a des réponses en nous disant, bah, effectivement, on va défendre la vie associative. Si je prends les services civiques, par exemple, qui concernent pas que la vie associative, mais qui permettent à des jeunes, pendant un certain temps, de consacrer à une mission d'intérêt général. On parle d'une diminution sévère des services civiques, et donc on a interpellé les parlementaires, et pour l'Orne, par exemple, pour avoir interpellé les parlementaires de l'Orne, que ce soit le sénateur Bitz ou que ce soit la députée Chantal Jourdan, elles m'ont répondu en disant qu'elles avaient posé une question écrite au gouvernement pendant l'été là. Donc les parlementaires, bah, puisque c'est eux qui font la loi quand même, hein, et donc c'est eux qui votent le budget, la loi de finances, donc les parlementaires, on les sollicite et, en espérant qu'ils obtiennent gain de cause dans notre défense, voilà.
Alors le rapport insiste aussi sur l'importance de soutenir et valoriser donc les emplois associatifs. Quels sont, selon vous, aujourd'hui les secteurs les plus fragilisés ou en tension ?
Eh bien, je ne sais pas s'il y a des secteurs plus fragilisés que d'autres. Le culturel, je pense. Le culturel est peut-être plus atteint. Enfin, le socio-culturel, voilà. Donc on distingue, c'est pas deux secteurs complètement qui sont différents, mais c'est vrai que le secteur sportif, peut-être qu'avec le jeu de la licence, hein. Puisque toute activité sportive, compétition et autres, nécessite une licence. Donc à travers la licence, peut-être il y a un financement plus facile du secteur sportif. Alors, le socio-culturel, par contre, alors lui, du coup, alors quelquefois, on ne le met pas au niveau qu'il faudrait, au niveau des collectivités. Bon, ben voilà, on va pouvoir se passer d'une activité d'une MJC, par exemple. Et donc, c'est peut-être le secteur socio-culturel qui est le plus en souffrance. Alors, et ensuite, il y a le secteur caritatif, qui est encore autre chose. Le secteur caritatif qui, effectivement, souffre, hein, que ce soit la Banque Alimentaire, que ce soit les Restos du Cœur, que ce soit le Secours Catholique, Secours Populaire, et ainsi de suite. Ce sont des associations qui souffrent d'une absence de moyens. Mais je mettrai quand même le secteur socio-culturel, peut-être en péril plus que le secteur sportif. Mais bon, c'est pas des comparaisons à faire, bien sûr.
Dans un contexte budgétaire contraint, comment les associations peuvent-elles continuer à innover et à maintenir leurs activités ?
Eh bien, en se défendant. En se défendant, et c'est clair. Et c'est pour ça que la proposition d'une journée de mobilisation qui en appelle d'autres, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu le 11 octobre, c'est vrai que c'est une journée qui a été décidée sur le plan national à la fin du printemps, au mois de juin, là. Mais c'est une journée qui en appelle forcément d'autres. Bon, c'est une journée qui a été décidée au 11 octobre parce que c'était la veille de l'examen du projet de loi de finances. Mais pendant ce projet de loi de finances, je vous assure que les associations, les coordinations sont mobilisées, notamment ce que je vous disais tout à l'heure, pour intervenir auprès des parlementaires, pour qu'effectivement les projets de loi qui sont en construction tiennent compte de ces difficultés-là. Alors, ensuite, la recherche de financement des associations, je pense qu'elles le savent déjà, il faut frapper à toutes les portes et avoir des actions, mais il ne faudrait pas. Peut-être qu'il y a des pays où, effectivement, on vend des fleurs tous les dimanches matins pour financer sur les marchés, sur les trottoirs, pour financer une action. Faudrait pas en arriver là, voilà. Faudrait pas que des associations soient obligées, pardon, de faire de la vente, par exemple, d'organiser des braderies, d'organiser je sais pas quoi, moi, pour récupérer de l'argent, pour mener à bien des actions qui sont d'intérêt général. C'est ce que font les associations en règle générale, quand même, c'est pas des actions tellement pour elles-mêmes, c'est des actions qui s'adressent à un public, donc c'est un public, des populations, que ce soit des enfants, des personnes âgées ou autres, qui en bénéficient, et c'est bien de cet intérêt général dont il s'agit, et ça il faut le redire, quoi.
Alors vous évoquez aussi la nécessité de mieux former et reconnaître les bénévoles. Quelles initiatives pourraient être développées dans ce sens en Normandie ?
Alors, il y a déjà des initiatives. La formation des bénévoles existe. Hein. Il y avait le CFGA qui vient de changer de dénomination. Et je ne vais pas... j'ai plus le terme exact, donc le CFGA, certificat de la formation à la gestion administrative, qui pouvait être utile hein, pour un bénévole quel qu'il soit dans un CV, à plus forte raison quand il est jeune, puisque c'était un certificat qui a un référentiel national qui prenait 5 journées hein, sur des thèmes différents, la vie associative, enfin du moins le droit, la paye, les comptabilités et ainsi de suite. Et donc ce CFGA a été conduit en Normandie. Alors c'est dommage, j'ai pas les dates en tête maintenant, mais je suis persuadé que dans les mois qui viennent, là, dans l'Orne, il y a forcément un CFGA qui est en cours. Donc c'est bien de la formation des bénévoles. On est bien. Mmh. Non, c'est pas de la formation des professionnels, des associations. C'est bien de la formation des bénévoles, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des démarches administratives, mais les démarches administratives sont de plus en plus complexes.
Confirme.
Oui. Et donc, ça nécessite de la formation sur les différents secteurs de la vie associative. Voilà.
Alors, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Maintenant, abordons le thème de la mobilisation, des perspectives. Quelles sont aujourd'hui les priorités du mouvement associatif de Normandie et quelles sont les priorités pour les années à venir?
Alors, la priorité des priorités tout de suite, c'est l'interpellation des parlementaires, puisqu'ils sont en train d'examiner le projet de loi de finances. Et donc, on ne ménage pas nos efforts pour contacter les parlementaires. Alors, il y a eu des courriers qui ont été faits, c'est à partir, du mois d'août, mois de septembre, voilà. Et actuellement, on n'hésite pas à interpeller les parlementaires dans leur permanence, par exemple, pour leur mettre en évidence ces difficultés de la vie associative. Donc ça, c'est la priorité des priorités, puisque c'est quand même le projet de loi de finances qui va, je dirais, régler, enfin du moins qui va apporter des réponses à ces difficultés qu'on connaît actuellement. Ensuite, il y a la mobilisation quand même des associations. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure qu'il y a des associations qui meurent dans le silence. Hein, et donc, peut-être on a un effort à faire, du moins pour mobiliser ces associations. Ça ne se traduit pas forcément par une manifestation. L'autre jour, on était sur le marché, on est allé à la préfecture déposer une motion. Ça participe de la mobilisation. Mais j'ai noté que toutes les associations, notamment alençonnaises, n'étaient pas présentes, bien sûr. Et c'est dommage sur Alençon, puisque le forum des associations qui avait lieu la semaine d'avant a été supprimé à cause de la tempête, là. Et on avait prévu un effort particulier concernant la mobilisation de ces associations. Mais au précédent, depuis fin août et début septembre, on a fait tous les forums associatifs de l'Orne, à savoir Flers, Argentan, L'Aigle, Bellem, La Ferté-Massé, par exemple. On est allé sur ces forums ou ces fêtes associatives pour présenter cette opération du 11 octobre. Voilà.
Alors, le rapport évoque aussi la possibilité de créer un fonds régional dédié à l'innovation associative. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Bien non. Non, parce que c'est un sujet qui n'a pas été développé depuis. Hein. L'alimentation d'un fonds, parce que c'est vrai que les associations innovent. C'est un peu le principe d'une association. C'est une association, loi de 1901, c'est deux personnes qui se réunissent et qui décident en commun d'avoir un projet. Bon, voilà. Donc ensuite, généralement, le projet, c'est quelque chose de quasiment toujours un peu innovant, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, du moins sur le plan local. Quand deux personnes se réunissent sur le plan local pour projeter quelque chose, ça veut dire que ça n'existe pas. Le côté innovant des associations, il est manifeste. Et d'avoir un fonds qui serait consacré à cette innovation serait intéressant. Je reprends le médico-social, par exemple. L'histoire du médico-social, ce sont bien des associations de parents, de personnes qui se sont mobilisés, qui se sont créés en association pour des établissements pouvant accueillir, par exemple, des personnes en difficulté ou des personnes en situation de handicap ou des personnes en situation de vieillesse et ainsi de suite. Donc l'innovation, je dirais, correspond bien à cette idée associative. Alors, ensuite, constituer un fonds, ça ne pourra se faire qu'avec une participation des collectivités et de la puissance publique en général. Donc voilà, on en est là pour actuellement. J'ai pas de précision sur l'avancée de ce travail sur un fonds d'innovation. Voilà.
Alors, pour terminer, si vous aviez un message à adresser aux décideurs politiques qui peut-être nous écoutent, que leur diriez-vous à l'heure où une nouvelle coupe budgétaire menace la vie associative ?
Bah, tout simplement, qui se pose la question, que serait notre vie quotidienne à tous sans les associations. Donc à partir de là, on peut se dire que ces associations ont une importance dans la vie quotidienne des gens, de toutes les personnes. Je ne connais pas une personne qui pourrait dire bah, « moi les associations, j'en ai rien à faire, j'y participe pas, j'en bénéficie pas, c'est pas possible ». Donc cette vie quotidienne qui est de l'intérêt général, c'est un message que je peux passer au Parlement en disant qu'ils doivent sauver cette vie associative en général. Voilà.
Eh ben merci beaucoup Monsieur Lemonnier pour cette interview enregistrée ce 23 octobre à la suite de la manifestation que vous avez organisée à Alençon le samedi 11 octobre pour le mouvement associatif de Normandie dans le cadre du plaidoyer pour la vie associative. Merci beaucoup.
Eh bien c'est moi qui vous remercie.